écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 28 avril 2014 avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex pour évoquer l'actualité internationale, nationale, locale, mais on va être à cheval sur du national et de l'international pour cette ouverture.
Oui, même de la mondialisation. On va être là vraiment dans ce que sera sans doute le milieu du 21e siècle, c'est-à-dire si on n'arrête pas le processus, c'est-à-dire une planète où définitivement les sociétés multinationales feront la loi face aux États qui pourront certes se plaindre auprès d'un tribunal d'ailleurs qui sera un tribunal spécial international comme une sorte de cour de justice internationale mais économique, mais sans avoir la certitude de pouvoir inverser ce qui se passerait. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, on a grandeur nature en préfiguration l'exemple de ce qui vient de se déclencher, c'est-à-dire la tentative sans doute qui va réussir d'une manière ou d'une autre, la tentative de mise de General Electric, donc multinationale américaine, qui veut mettre la main sur Alstom, enfin dit-on sur les deux tiers, la partie énergie de toute l'activité d'Alstom. Et puis là-dessus est venu se brancher un autre grand international, une autre multinationale, toujours sur l'énergie, mais peut-être plus sur le transport, c'est Siemens. Et voilà que depuis trois jours, le monde financier, le monde économique, le monde industriel est bouleversé par cette nouvelle affaire qui est une l'explication que l'on connaît depuis longtemps. Et quand Marx en parlait, c'était pas pour faire de la théorisation, c'était simplement, il analysait très bien comment les processus capitalistes, impérialistes allaient se développer vers toujours plus de concentration pour pouvoir toujours assurer de plus grands profits. Et les recompositions sont de cette nature-là, et celle à laquelle est soumise Alstom est tout à fait dans cet ordre historique de la pensée économique et de ces avancées, on va dire plutôt ces reculs. Alors bon, on voit que cet accord Europe-États-Unis n'est pas encore signé. Alors paradoxalement, François Hollande était pressé qu'il se signe. Pas sur tout, mais ça sera par étapes. Mais au moins, ne serait-ce sur les aspects entrepreneurial, économiques et industriels, ça devrait se signer avant l'été. Voilà. Et Hollande disait qu'il était partisan que ça, les choses aillent très vite. Ah, ben, très, très mal lui a pris, ou alors il a lu dans le marc de café et il s'est dit, quand ça sera fait, comme je ne pourrai plus rien dire, on ne pourra plus rien me reprocher. Alors que là, il est obligé d'intervenir. Alors on a compris que l'intervention, elle est médiocre, elle est pratiquement nulle. Et il reçoit des PDG de toutes ces entreprises, à l'Élysée, c'est au niveau de l'honneur et sauf, comme on dirait en d'autres lieux, mais c'est tout. Il ne se passe rien, on n'a aucune... La France n'a pas de position. Elle aurait pu avoir la position maximaliste, c'est-à-dire non, on nationalise, on garde, parce que c'est stratégique, parce que en plus c'est une entreprise qui assure des grands aspects de notre développement et de notre réindustrialisation. Donc pas de nationalisation, même pas de nationalisation temporaire, comme le demande le front de gauche Mélenchon, et une partie de la droite d'ailleurs, il y a une droite souverainiste qui le demande. Les Britanniques et les Américains l'ont fait avec les banques, elles ont fait des nationalisations temporaires. Là, il n'en est pas question. pas question de faire... Enfin, du moins, ça n'est pas l'orientation dans laquelle veut s'engager le gouvernement français. Et Montebourg, qui décidément, une fois de plus, renie tout ce qu'il a pu penser, dire, écrire et proposer comme alternative à l'économie telle qu'elle était dirigée sous Sarkozy, bien, Montebourg ne dit rien. Voilà, c'est un grand problème qui est donc est vraiment intéressant parce que par ailleurs, en France, mais dans toute l'Europe, et sans doute il y a peut-être... Bon, aux États-Unis, c'est moins développé, mais il y a toute cette campagne, qu'on appelle la campagne TAFTA. TAFTA, c'est grand marché transatlantique. Hein. Simplement, TAFTA, c'est les lettres transatlantique, free trade affairs. Bon, c'est le nom anglais de la même chose. C'est cette négociation en cours, discrète, entre les experts européens et experts américains. Donc tout ça se conjugue et tout ça vient se brancher en même temps sur les élections européennes. Et donc ça va être un grand moment, hélas, un grand moment, mais qui peut très mal tourner si, effectivement, il n'y a pas une résistance populaire. Résistance des États, ça ne suffit pas. C'est presque une résistance de classe sociale qui peut faire barrage à cette situation. On va voir comment, d'ailleurs, les salariés d'Alstom, mais pas tout seuls, vont se comporter le 1er mai. Et là, donc, on tombera sur le 1er mai, qui sera peut-être un grand moment pour dénoncer les ambitions impérialistes des grandes multinationales. Allô ? Allô ?
Allô, oui, voilà. Alors déjà, il y a 10 ans, je disais, on a eu la même situation avec Alstom qui était en difficulté.
Juste avant, faut qu'on s'excuse parce qu'il y a eu...
Oui, il y a eu un blanc, là j'ai eu un problème technique, mais ça y est, c'est réglé.
Les auditeurs ne nous en voudront pas. Ouais.
Il y a 10 ans, donc déjà, Alstom était en difficulté, et là, l'État était intervenu pour racheter 20% du capital. Bon, un plan de sauvetage, ça avait réussi à remettre la boîte un peu à flot, au point qu'on a pu trouver un certain Bouygues, le spécialiste des centrales thermiques de Masson, pour racheter tout ça et revendre quelques années après, quand ça, en faisant une plus-value même. Et là, il n'est pas trop question que l'État intervienne. Maintenant, c'est vrai que General Electric, Alstom, ils les connaissent bien, parce que il y a 4 boîtes General Electric en France, dont une qui est à Bourgogne, hein, c'est à 10 km de Belfort, et qui a 600 ouvriers, donc qui travaillent ensemble depuis toujours. Hein. Ils sont au Creusot aussi, General Electric. Alors on voit bien que les synergies existent, tout comme elles existent avec synergie ou compétition, ou concurrence, tout comme elles existent avec Siemens, qui a aussi du chemin de fer, et qui a aussi de l'énergétique. Quoi. Donc c'est une bataille de requins de la finance entre eux. Bien sûr, on peut toujours regretter qu'une société française soit prise en main par des capitaux américains, mais disons que pour les salariés, leur seule préoccupation, c'est d'avoir du boulot et qu'il n'y ait pas trop de licenciements. Quoi. General Electric, sur ses 11 000 salariés en France, en a déjà licencié 600, et Alstom a un projet de 1300 ou 1400 licenciements. Quoi. Alors Alstom, grosse charge de travail dans le domaine du transport. Ils ont 100 transports et de l'électricité, des bobines, des alternateurs. Ils ont 5 ans d'avance devant eux, mais crise, nous dit-on, dans le domaine des turbines à gaz en particulier. On se demande bien pourquoi, puisque ça prospère si bien chez le concurrent General Electric. C'est peut-être parce qu'il a piqué le marché. Et on peut effectivement penser que son objectif, c'est pas tellement de récupérer les usines d'Alstom, c'est de récupérer les commandes et de liquider l'activité propre à Alstom dans le domaine. Quoi. Ça, ce serait pas étonnant que ça finisse comme ça.
Oui, oui, les commandes, récupérer les commandes en aval et récupérer le savoir-faire en amont.
Ouais, voilà, donc résultat des courses mercredi.
De ces batailles inter-industrielles et à recherche de développement capitalistique, oui.
Résultat des courses mercredi, du moins on devrait en savoir plus mercredi. Voilà, on parle du reste du monde un petit peu.
Oui.
Alors, l'Ukraine, ça fait problème. On ne sait plus quoi dire alors qu'il est, hein, parce qu'il y a tout et son contraire. Par quel bout prendre la question ? On peut peut-être balancer quelques informations et puis après essayer de faire un tri là-dedans. Le fait que les prétendus autonomistes ukrainiens visant à se rapprocher de la Russie tiennent un certain nombre de villes, ils tiennent même un certain nombre d'observateurs de l'OSCE, qu'ils appellent peut-être à juste titre des espions de l'OTAN. Ils en ont libéré un, mais ils en gardent sept. D'un autre côté, il y a même dans le pays des appels à manifestation dans ces pays de l'Est pour soutenir le gouvernement de Kiev, qui a envoyé des troupes qui se sont affrontées aux autres sans vraiment prendre la main sur la situation. Au niveau européen, on fait les gros yeux, on menace de tas de choses, mais en fait, on fait rien du tout parce que le gaz russe, on en a besoin. La France, quant à elle, elle a aussi besoin du gaz russe. Et en plus, elle a une commande pour 1 milliard de navires de guerre pour la Russie, qu'elle n'a pas du tout envie de perdre. Londres a des avoirs financiers, et puisqu'ils spéculent beaucoup à la bourse de Londres, qu'ils n'ont pas envie de voir péricliter non plus dans cette affaire, ce qui fait que de ce côté-là, il ne se passe pas grand-chose. Les Américains font de l'agitation, ils ont envoyé des troupes en Estonie, je crois, et les Français aussi, d'ailleurs, font voler des avions, envoyer quelques mirages pour surveiller l'espace aérien. En tous les cas, on a l'impression d'une situation extrêmement tendue, de laquelle tout peut sortir d'un moment à l'autre, mais sans pouvoir présumer ou entrevoir une issue dans un sens ou dans l'autre. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as une vision plus claire que la mienne de cette situation à l'heure qu'il est, mais c'est problématique, hein.
Non, ce qu'on voit bien par contre, c'est que les contrairement à ce que les Occidentaux lancent comme nouvelle, en fait les Russes ne bougent pas. Les Russes s'en tiennent à ce qu'ils ont signé avec les Occidentaux à Genève, à savoir nous n'entrerons pas, nous ne soutenons pas, et d'ailleurs les gens qui effectivement procèdent à des occupations dans cette partie du Donbass, extrême est de l'Ukraine, sont des gens qui sont du pays. Alors qu'ils soient rejoints, comme disent les Russes, qui disent qu'il y a sans doute des volontaires qui viennent de Russie, mais ça ne procède pas du tout d'une tentative discrète d'infiltrer le mouvement de séparatisme. Et donc, pour les Russes, ce qui compte, c'est la négociation. Et je lisais même un long entretien donné à... aux gens de qui animent, d'ailleurs, bon, on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais qui animent sur Internet le cercle Valmy, et le ministre des Affaires étrangères de Russie était très clair sur le comportement de la Russie, qui en aucun cas ne serait agressif, et a-t-il dit, ils ont même à dire que ils insistent pour que l'Ukraine devienne un système fédéral, mais ils disent que si ça n'aboutit pas, ils le regretteront, mais que ça n'ira pas plus loin. Pour eux, il n'est pas question d'imposer quelques transformations constitutionnelles si effectivement, par un référendum, le peuple ukrainien ne le demande pas. Et bon, Effectivement, on s'aperçoit que depuis, bon, depuis tous les jours, on répète que les Russes massent des troupes à la frontière. Bon, on maintient cette ambiance-là, mais en fait, il y a des observateurs, d'ailleurs, de l'OSCE qui y sont. Ils y étaient encore il y a une semaine. Ils ont fait un rapport officieux pour dire en arrière marqué, il n'y a pas de préparatifs de guerre. Et par contre, à l'OTAN, on ne veut pas qu'ils diffusent un rapport officiel. Ils disent que c'est au moins un constat. Il faut le garder discrètement, mais faut pas, enfin, on a bien compris. Si l'OTAN ne veut pas qu'il soit révélé, c'est parce qu'il n'y avait rien dedans. Et ça renvoyait aux fameuses armes de destruction massive quand on parlait de l'Irak. Le dernier point que je voulais soulever, c'est que j'ai vu qu'une information qui déjà était claire et circulaire a été confirmée par une télévision allemande, ARD, qui est une télévision très sérieuse. C'est pas des pro-russes ou des pro-ukrainiens. Ils seraient peut-être même plus pro-ukrainiens que. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Ben, ils ont ressorti tout ce qu'ils ont filmé les deux jours du 20 au 22 février, quand il y a eu ces tirs sur la foule du Maïdan à Kiev, qui a fait, je crois, près de 100 personnes, 100 morts, enfin, 100 personnes blessées, et donc une grande partie également sont mortes, des gens qui ont été abattus, tirés dans le dos, et effectivement, ils ont des images, ils ont la preuve que les snipers, parce que tout le monde s'était étonné qu'il y avait à la fois des soldats ukrainiens et des civils qui manifestaient, et qu'il y avait eu des morts des deux côtés. Donc c'est étonnant que des soldats tirent sur d'autres soldats. Bon. Et ils ont quasiment la preuve qu'il y a eu effectivement une opération montée de massacre pour influencer, et que pour eux c'est évident que c'est les deux groupes, ils ne savent pas trop lequel, les deux groupes d'extrême droite qui ont monté cette opération pour accélérer, comme on dit, l'histoire. Parce qu'il faut se souvenir que entre ces deux dates du 20 et du 22 février, il y avait eu comme par hasard un accord qui a été conclu entre l'Europe, les États-Unis, la Russie et même des représentants donc du pouvoir à Kiev, qui est à la fois un pouvoir donc à cheval sur la rue et sur le Parlement. Et donc cet accord, enfin, il a duré que quelques heures, puisque comme par hasard, ce massacre est intervenu, et donc avec toutes les conséquences du massacre, c'est-à-dire chacun retournant dans son camp, etc. Et ça, c'est une information officielle, on peut dire que c'est officiel, et que vraiment, l'évolution désastreuse de la révolution ukrainienne, eh bien, c'était l'objet dans sa phase où ça aurait pu aboutir à quelque chose de concret. Ça a été effectivement une manipulation énorme.
Bon, avançons dans nos sujets. La Palestine. Discours de Mahmoud Abbas pendant une heure, à l'avant-veille de la commémoration par l'État d'Israël de l'Holocauste. Et un discours qui surprend, des mots qu'il n'avait jamais employés. L'Holocauste, le crime le plus odieux de l'ère moderne, a-t-il dit. Évidemment, ça a l'air de mettre Netanyahou en colère, qui voit là une vilaine récupération de ses propres thèses. Autre chose qui met Netanyahou en colère, c'est le fait de cet accord qui est pratiquement passé. On ne sait pas quelle consistance il aura dans le temps, mais entre le Fatah et le Hamas, quand on analyse la politique israélienne depuis une quinzaine d'années, on voit que les Israéliens ont mis beaucoup d'ardeur et de travail à constituer la césure entre les Palestiniens à travers le Hamas et le Fatah. Fatah et les voir se réconcilier, ils ne voient là rien de très bon pour eux quant à leur visée sur la Palestine et les colonisations. Donc on arrive aussi, c'est le 30 avril, à la fin du cycle de négociations, et là aussi Mahmoud Abbas réclame qu'un nouveau cycle soit commence, mais il voudrait que la libération des 26 prisonniers qui étaient convenus dans cette première série soit effectivement effective, ce que pour le moment les Israéliens refusent. Voilà donc une petite évolution de la situation en Palestine, mais qui pour évidemment la population sur place ne change rien. Au niveau de l'échiquier diplomatique, on va dire que les pièces ont bougé un tout petit peu.
Un petit peu, peut-être un peu plus. Enfin, je l'ai dit, c'est parce que samedi après-midi à Manosque, il y avait une conférence, meeting avec Leïla Chahid. Leïla Chahid, c'est la représentante palestinienne à Bruxelles, donc elle est là-bas à titre officiel, elle représente les Palestiniens. Alors évidemment, le Hamas pour l'instant est à l'extérieur de tout ça, mais la Palestine cisjordanienne, elle est représentée à Bruxelles par Leïla Chahid, grande figure, grande combattante depuis des décennies, qui a échappé à la fois à la mort, soit à la mort violente par balle, soit aux empoisonnements, et qui donc, pour elle, bon, d'abord, elle a dit deux choses. Elle a dit que cette nouvelle situation née de la rencontre entre l'OLP et le Hamas était une conséquence de l'évolution, on va dire, périphérique de l'histoire, et notamment de ce qui s'est passé en Égypte. Le Hamas est isolé, il faut donc que le Hamas trouve un moyen de se sortir de cet isolement. Alors, déjà, il y avait l'isolement, on l'a assez dit, hein, ces prisons à ciel ouvert, pour ce qui est Gaza. Et donc, pour s'en sortir, ils acceptent ce rapprochement, et ça va très loin, puisque l'idée c'est que Abbas resterait pendant encore un temps le président de ce nouveau gouvernement, structuration de l'État palestinien, donc qui s'agrandirait, l'État palestinien dont il faut qu'on rappelle qu'il est reconnu mais non membre de l'ONU, et donc cet État palestinien se recomposerait dans la totalité des Palestiniens de ces deux régions. Et le deuxième point Leïla Chahid trouve ça très positif, mais sans se faire trop d'illusions. C'est-à-dire, on a eu d'autres étapes, et on sait comment Israël peut saboter ce genre de choses. Il suffit de déclencher des mini-guerres. Ça ne serait pas la première fois. Et puis le deuxième point, alors là, elle est intervenue aussi pour puisque elle est représentante à Bruxelles et que l'Union européenne entre dans une période de vote le 25 mai, et elle espère alors deux choses. D'une part, que l'Union européenne vraiment se comporte honorablement, c'est-à-dire montre que elle est pour l'application du droit international, et que personne, y compris Israël, ne peut s'y soustraire, et que l'Union européenne, dit-elle, doit cesser de culpabiliser, on a compris, par rapport à la Shoah, tout ça, et qu'elle défende une position nette avec des conséquences, c'est-à-dire l'application, par exemple, d'une sorte de rupture de relations économiques, culturelles, etc., entre l'Union européenne, et espère qu'effectivement, du Parlement qui sortira après le 25 mai à Bruxelles, une nouvelle ligne politique sera mise en place qui exigera que le droit international s'applique en Israël, comme il doit s'appliquer sur n'importe quelle partie de la planète.
Puisqu'on était sur l'Union européenne, on peut dire un mot de l'élection à venir du commissaire de l'Union européenne. Alors, l'affaire est un peu compliquée. Il y a 5 candidats actuellement, 6 à vrai dire, puisque les écolos ont proposé un duo. Bové et Keller, ils tiennent absolument ce qu'il y a un homme et une femme quand ils présentent une candidature. Autrement, il y a Juncker, il y a Schulz. Chacun de ces candidats étant présenté par un des grands partis du Parlement. Mais la problématique, c'est que, en fait, ce sont les chefs de gouvernement qui doivent choisir ces candidats. Théoriquement, ils doivent les choisir une fois que les élections européennes auront été faites, dans le parti le mieux représenté, quoi. Et puis, une fois qu'ils auront choisi ce candidat, ils doivent demander l'aval du Parlement européen. Et ça coince déjà un peu, parce qu'il y a un certain nombre de voix au Parlement européen qui ne voient pas, en gros, de quoi se mêlent les chefs de gouvernement dans cette affaire. Ils estiment que le Parlement est bien assez grand lui-même pour choisir son commissaire et qu'ils n'ont pas besoin de l'aval des chefs de gouvernement. Alors derrière cette embrouille, il y a toute la question du fédéralisme européen qui se pose un petit peu. Il faudra bien un jour qu'on accepte que le Parlement européen ait réellement des pouvoirs et des droits et qu'il ne soit pas qu'une chambre d'enregistrement des décisions d'un petit groupe de chefs d'État, fut-il à 28, quoi. Enfin, tout ça, on aura le temps d'en reparler, mais on sent que la tension monte un petit peu autour de cette question.
C'est un autre... Il rejoint ce qu'on a pu dire en démarrant ces informations sur est-ce que, oui ou non, l'Union européenne est capable d'avoir une politique autonome de celle des États-Unis. Et ça repose cette question. Et pour ça, il faut effectivement que les pouvoirs du Parlement européen soient réels.
Autre sujet, Robert, tu as des choses, mais
on avait les petits sujets toujours dans la zone moyen-orientale des situations conflictuelles où en Syrie, au niveau de ce qui peut apparaître à beaucoup d'observateurs, quelque chose comme surréaliste, c'est que le pouvoir syrien met sérieusement en place le processus qui va conduire le 3 juin à l'élection d'un nouveau président syrien. Alors ils sont 7 candidats, dont Bachar, c'est le dernier annoncé, mais c'était la clôture, je crois, ces jours-ci, de ce soir, peut-être, ou demain. 7 candidats pour la présidence de la Syrie. Alors bon, ça va être on va dire que les bureaux de vote, faut parler un peu comme on parle quand on fait des élections, eh bien il faudra les mettre dans des endroits qui soient protégés, c'est-à-dire dans les parties de la Syrie que le pouvoir en place contrôle. Et évidemment, ça va poser énormément de problèmes. Alors, on ne sait pas trop non plus qui aura assez le courage parmi les pays, surtout ceux qui sont très hostiles à Bachar, le courage d'aller jouer les observateurs dans cette élection. Certains d'ailleurs disant on n'y va même pas parce que ça va être une élection préfabriquée, c'est même pas besoin d'y aller. C'est pas un bon motif, disent les autres, c'est pas un bon motif, faut y aller et puis il faut dénoncer. Voilà, on en est là, mais ça va être un moment quand même assez fort que ce qui se passera début juin en Syrie. Et Bachar, on peut dire que d'un certain point de vue, l'affaire ukrainienne l'arrange, parce que on s'aperçoit que les affaires de la Syrie, ça vient en bas de page, et que tout là-haut, toutes les unes et tous les grands sujets répétés dans les radios, notamment, qui tournent en boucle, ou même dans les télés en boucle, comme BFM, ben, c'est l'Ukraine, et la Syrie arrive très loin derrière maintenant. Sauf que, bon, on a ressorti le fait qu'il y aurait du retard sur la livraison des armes chimiques, donc les Syriens. Mais bon, là-dessus, personne ne se fait de... Tout le monde savait que c'est il n'y a pas 6 mois, même pas en 1 an, mais qu'il faudrait peut-être beaucoup plus de temps que ça pour arriver à ce que toutes les armes chimiques syriennes soient sorties de Syrie.
Alors, puisqu'on était dans les élections, il y a aussi celle de le 7 mai d'Afrique du Sud, hein, avec une ANC qui est contestée un petit peu, pas mal actuellement. C'est en même temps le 20e anniversaire de la première élection multiraciale. C'était le 27 avril 1994. Donc 20 ans après, Zuma, toujours président, va-t-il obtenir encore cette fois le vote des citoyens qui contestent de plus en plus sa politique parce qu'ils en font les frais, hein, que ce soit par la pauvreté ou que ce soit comme en 2012 les 34 assassinats de mineurs syndicaux qui protestaient par le pouvoir.
Oui, parce qu'il y a il est au pouvoir, normalement élu, depuis quand? Parce que Mbeki, qui a été un peu le premier président après Mandela, Mbeki est resté déjà a dû faire un ou deux mandats, et puis maintenant Zuma il attaque son deuxième mandat, alors ça serait non.
Oui, je ne sais pas combien d'années il est en place.
Oh, il n'y a pas très longtemps, hein, parce que Mbeki, il était encore au pouvoir il y a quelques années en arrière. Mmh. Oui. Il y a une autre élection que tu as sûrement noté également dans tes...
Afghanistan, non?
Oui, il y a l'Irak aussi. L'Irak, on va voter. C'est une élection législative, c'est-à-dire que, enfin, on n'élit pas un président. Ouf, on se contente d'élire des députés qui eux-mêmes éliront un président. C'est le système parlementaire. Comme on a pu connaître sous la 4e République, 3e, 2e République en France. Bon, ça fait un peu plaisir de temps en temps de savoir qu'on ne va pas forcément élire un nouveau dictateur ou quelqu'un qui va prendre le pouvoir sur tout le monde à travers une élection présidentielle. Bon, peu importe, ça n'empêchera pas que les Irakiens seront toujours aussi malheureux et que la disparition de Saddam Hussein ne leur a pas apporté que du bonheur, loin s'en faut. Donc, élection. Alors, il est probable que la majorité chiite va remporter. C'est une affaire, on va dire, arithmétique, numérique et arithmétique. Mais les Irakiens ont fait une intervention à la frontière syrienne pour détruire un convoi de djihadistes de cette fameuse... je sais plus comment elle s'appelle, enfin, l'EIL, je ne sais plus la décrire, mais bon, c'est la faction la plus intégriste, la plus violente parmi les factions qui se réclament de l'islam et qui combattent contre Bachar. Et donc elle a été détruite, et sont les troupes irakiennes qui ont procédé à cette opération. Alors c'est... Peut-être que, on avait compris que finalement l'Iran est en grande majorité, très majorité, il est chiite. L'Irak a une majorité chiite. Et la Syrie a une minorité chiite. Voilà, donc on est dans cette configuration. Évidemment, si on ajoute le Liban, ça complique pas, mais ça veut dire que on voit bien toute la complexité quand effectivement la bataille religieuse prend le dessus sur la bataille politique, la bataille sociale, la bataille sur les libertés, sur l'indépendance, etc. Oui, Afghanistan, le deuxième tour, alors moi je ne sais pas si... Il semble qu'il reste deux candidats.
Oui, parce que Abdullah a fait 49% au premier tour, donc ça a failli être bon. Et le deuxième candidat, Ashraf Ghani, a fait 31%. Donc on ne voit pas bien qui pourrait s'inscrire entre les deux pour rafler la mise. Donc c'est sûrement le candidat Abdullah qui va être élu.
Mais tous les deux sont des membres du gouvernement de...
Karzai.
De Karzai, oui. Je pense. Hein. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont... Enfin, ont-ils des programmes?
Le problème de l'Afghanistan, ce n'est pas tellement une question de programme, hein, c'est une question de répartition des influences entre les différentes obédiences, oui. Les différentes tribus, et c'est un jeu politique. D'ailleurs, il n'est pas exclu que Karzai, une fois le mandat de ses nouveaux élus terminé, revienne sur le devant de la scène, quoi. Mais je crois que la Constitution lui interdisait de se représenter une nouvelle fois.
Oui, parce que entre les régions Pachtounes, les régions Tadjiques, bon, ça reste c'était pas un fonctionnement. On a tendance à dire, mais c'est péjoratif. C'était tribal, non? C'était
pas péjoratif. C'est une organisation politique.
Voilà.
Comment dire, qui est non formelle, mais qui est réelle, quoi.
Oui.
Voilà. Ben, on va peut-être terminer par quelques brèves et puis faire une pause musicale.
On va peut-être faire un grand clin d'œil. Au 40e anniversaire du 25 avril.
Ce sera la pause musicale, ça.
C'est peut-être d'ailleurs là-dessus que tu avais prévu.
Oui, on va passer la chanson qui a déclenché la révolution des œillets, en espérant que ça déclenchera une révolution en France. C'est pas sûr que tous les militaires français attendent notre...
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'association qui regroupe, mais elle ne se contente pas de regrouper les vétérans de cette époque, c'est-à-dire des gens qui auraient 60 ou 80 ans aujourd'hui, mais elle regroupe des autres jeunes générations, notamment ces jeunes officiers et capitaines de l'armée d'aujourd'hui. Et cette association qui essaye de continuer sur le plan des valeurs sociales, d'égalité et de liberté, essaye de garder les idées du mouvement des forces armées, du MFA, c'est-à-dire des années 74 et 75, au point que le gouvernement de droite, hein, qui a organisé une commémoration, mais elle s'est contentée de dire que c'était la fin de la dictature et le début de la République, c'est tout. Je ne veux pas entrer, savoir si c'était une République sociale ou bourgeoise. Donc, le gouvernement portugais, donc, avec l'État et le président, ont organisé des commémorations. Mais cette association de militaires a refusé d'y participer au nom qu'elle a dit le peuple portugais subit trop de misère actuellement par la faute effectivement de l'austérité, cette austérité décrétée à Bruxelles, menée par la Troïka, tout ça. Et donc, nous ne participerons pas à vos commémorations parce que vous êtes complice de cette austérité. Et d'une certaine manière, c'est presque un nouveau coup d'État.
Allez, on écoute Candela Villa Morena par José Afonso lui-même, qui avait écrit cette chanson. Chanson qui donc a servi à déclencher la révolution des œillets, puisque c'était le signal qui devait indiquer à tous les militaires que c'était le moment de passer à l'action.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. A sombra do Mazinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade, jurei ter por companheira.
De la Villa Morena par José Afonso. Canu Info de ce 28 avril 2014, rubrique nationale, on y arrive. Je vais faire un tout petit détour pour arriver à la rubrique nationale en offrant un sujet de réflexion à nos auditeurs. Il paraît que les Suisses, ils sont pas loin les Suisses, ils ont une votation en projet qui vise tout simplement à porter le SMIC à 3000 euros. Il faudra que quelqu'un le dise à M. Valls et à ses petits copains, parce que pourquoi à 200 km d'ici, le SMIC est à 3000 euros, et ici il est à 1000 et qu'on veut encore le baisser. Quand on m'aura expliqué ça, je pense que j'aurai beaucoup avancé dans la compréhension de l'économie politique, mais personne ne s'y
hasarde. Je pourrais en parler là une prochaine fois, parce que bon, c'est le 18 mai, ils vont voter. Parce que j'ai des amis suisses, ils avaient plusieurs reçu toute la documentation, et c'est énorme. Hein. Et donc, ils n'en avaient pas besoin de tous. Et alors, j'ai deux cahiers qui expliquent tout ça, et à l'intérieur, il y a les bulletins de vote à l'intérieur.
Hein. Tu nous feras un commentaire, hein, parce que ça mérite.
Bien qu'on en arrive là, un jour, ici en France.
On nous fait croire que, parce que les gens gagnent 1000 euros, ils foutent l'économie en l'air, et qu'il faut arriver à mettre le SMIC à 500, c'est ultra énervant d'écouter ça sur toutes les radios et toutes les télés à longueur de journée. Quoi. C'est quand même honteux de... ce relais. Eh bien justement, les socialistes demain vont voter, ils vont voter le pacte de stabilité ou de responsabilité, je pense que c'est le même, 50 milliards d'économies, et bon, ça a un peu rué dans les brancards, on se demande par moments si ceux qui ont été rués dans les brancards n'étaient pas téléguidés pour le faire, vous savez, c'est comme les offres promotionnelles, ça, on commence par vous dire que on va tout diminuer de 50%, puis finalement, oh ben on va faire un geste, non, ce ne sera pas 50, ce sera 48. Et bien c'est ce qui se passe, puisqu'après avoir laissé entendre que toutes les retraites ne subiraient aucune revalorisation, et quand on parle de revalorisation, là aussi c'est un sacré mensonge, hein, parce que songez que EDF augmente dans des 5-6%, que GDF vient d'augmenter de 5 et augmente de 5. Et quand on parle de revaloriser les retraites de 1% ou de 1,5%, ça ne paye même pas l'augmentation du gaz. Il ne faut pas se foutre du monde quand même. Hein. On laisse les capitalistes et les grosses boîtes nous étrangler jusqu'à la gauche. Et pendant ce temps-là, on veut nous faire croire qu'avec 1,5% pour les petites retraites, on fait un geste d'une générosité absolument incroyable. Quoi. Même pour les petits fonctionnaires aussi, ils auront 440 euros en 2015. Ça paiera tout juste l'augmentation de leur chauffage au gaz chez eux. Donc c'est pas des avantages tout ça, hein. Ça continue à être des resserrements de revenus et des écrasements de la population. Bon, demain ça va se voter et vraisemblablement les socialistes passeront sans problème et Valls s'en tirera toute la gloire, à vaincre sans danger, en triomphe sans gloire. Il aura l'appui d'une partie de l'UDI, il aura l'appui des radicaux de gauche, donc avec ça, même s'il y a quelques irréductibles et on les cherche dans les députés PS pour voter non, voire pour s'abstenir, c'est ce qu'ils semblent être capables de faire au mieux, tout cela passera comme une lettre à la poste et nous serons tondus.
Et les Verts, je crois qu'ils se partagent aussi. Ils seront moitié en abstention et moitié qui vont le voter quand même, je crois. C'est toujours... Ils sont sortis du gouvernement, mais ils sont pas sortis de la majorité. Mais ils l'ont dit eux-mêmes. C'est une position effectivement très, très contestable et très contestée, notamment par leur électorat. Alors tu parlais des irréductibles des socialistes, mais en fait, avec un certain cynisme et puis en même temps un certain réalisme, des députés aujourd'hui se disent, bon, c'est perdu, aux prochaines à la fin du quinquennat, on n'aura pas redressé la barre.
On est balayé.
Donc on va être balayé, un certain nombre d'entre nous vont être balayés. Alors il y en a qui prennent les devants en disant, tant qu'à être balayé, je veux tomber dans l'honneur, et puis des fois l'honneur ça peut me servir, parce qu'après, je peux, à partir effectivement du fait que j'étais un bon contestataire, en changeant simplement de boutique, créant une nouvelle boutique ou rejoignant une autre boutique, eh bien, je peux peut-être me faire encore un mandat. Et bon, tout ça, ça fait un peu cynisme, c'est vrai. Mais ça n'est sans doute pas absent dans la pensée de tous ces gens députés qui aujourd'hui sont très inquiets sur leur sort et leur devenir, beaucoup plus inquiets que sur le sort de tous ceux que par leur faute, en acceptant tout de Hollande, ils ont envoyé, à rechercher du travail ou aller s'inscrire à la NPE. Je pense à toutes ces petites gens qui étaient des adjoints dans les communes et qui ont été balayés donc par la droite et qui maintenant sont pas forcément des gens de l'enseignement qui vont retourner à l'éducation, des médecins qui vont retourner dans leur cabinet, des avocats qui vont retourner également dans leur cabinet. Non, c'est pas ça. Ils n'y pensent pas à cela. Et je crois que les dégâts sont tellement forts que demain, on peut voir un début d'une grande expression de violence par le vote. Pas nombreuse peut-être, mais très forte, sans doute. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas bien compris ce qui se passe ce soir, mais il y a une espèce de mise en scène très forte où les députés, avec le Premier ministre et même avec François Hollande, le président de la République, eh bien, sont en discussion pour tenter de faire disparaître les divergences.
Quelques infos sur le collectif Polutax. C'est pas inintéressant, ça. C'est un collectif à l'initiative de la CGT dans le Sud-Ouest qui propose des actions pour aller dans le sens pollueur-payeur, à savoir la question de l'écotaxe, quoi. Puisque dans la perspective de l'écotaxe, déclare-t-il, on a baissé la taxe à l'essieu des transporteurs, on a diminué la TIPP. Donc les gros camions de 20 tonnes à l'essieu ne payent pas les routes qu'ils abîment. Au passage, si vous vous demandez qui c'est qui les paye, ben vous regardez le prix de votre gasoil ou de votre essence et vous aurez vite compris que c'est vous, les petites voitures particulières qui n'usent pas les routes, qui payent le goudron des camions. Et donc tous ces gens de Polutax s'indignent et demandent que la compétitivité soit remise dans des règles normales avec le rail et que donc on fasse payer aux pollueurs les méfaits qu'ils causent et l'action, une des actions, c'est de mettre des masques anti-pollution sur toutes les statues de France jusqu'au 3 mai. C'est un mouvement qui tend à se répandre nationalement. Puis dans le social, il y a ce mouvement chez Altia. Altia, c'est des usines d'emboutissage pour l'automobile, donc ils bossent pour un peu tout le monde. Et il y a 720 salariés qui sont menacés. Ces usines, il y en a à Beaucourt, près de Montbéliard. Il y en a à Besançon, il y en a à Meaux. Et c'est une des boîtes qui ont connu, comme beaucoup, des évolutions, des histoires compliquées depuis 2008, des difficultés reprises par une holding, des confitures qui demandent des aides de l'État, qui l'obtient. La holding magouille sur le dos des usines. Alors vous savez, le système, il est simple, c'est partout pareil. Hein. La holding fait payer des loyers de locaux impossibles aux usines, fait payer des loyers de machines impossibles aux usines, donc on déclare que les usines ne sont pas rentables. En fait, elles engraissent des salopards qui sont au-dessus et qui, eux, avec leur holding, dégagent des bénéfices et des dividendes. Et puis, à un moment donné, eh ben, on cherche un repreneur bidon, ce qu'on est en train de leur proposer, puisque une fois qu'on a pressé le citron, on peut se séparer de ces usines. Donc, il y a une menace de ce type-là avec les gens qui ont repris les usines d'Altia, et les ouvriers souhaiteraient, eux, qu'il y ait un redressement judiciaire de manière à pouvoir repartir. On peut toujours espérer sur des bases plus saines avec des gens qui ne seraient pas des requins soucieux essentiellement de leur tondre la laine sur le dos. Volvo aussi, il y avait 1000 personnes, on dit RVI ici, hein, on peut dire Renault Truck à Vénissieux, quoi, devant l'usine, pour protester contre le plan de sauvegarde de l'emploi. Vous savez, quand on parle d'un plan de sauvegarde de l'emploi, maintenant ça veut dire qu'on va foutre 1300 personnes dehors. Ils appellent ça de la sauvegarde, quand ils virent les gens. Bon, tout est une question de vocabulaire, évidemment. Sur les 1300, il y a beaucoup d'intérimaires et il y a 508 CDI. Soit disant que c'est une question sine qua non pour la survie de l'entreprise, tu parles. Et une petite nouvelle positive, si on peut dire. Il faut dire que le Champagne, Veuve Clicquot, Veuve Poignet, Moët et Chandon et autres font des bénéfices faramineux, puisque le chiffre d'affaires est de 6 milliards, il n'arrête pas d'augmenter. Donc les ouvriers se sont mis en grève, une grève pas très dure, mais une heure par jour en trois fois, histoire de désorganiser la production. Et finalement, ils ont obtenu 150 euros par travailleur à travers le CE, des activités proposées par le CE, 150 euros dans un plan d'épargne salariale. Ceux-là, ils ne sont pas prêts de les voir, mais enfin, si les actions de la société du plan d'épargne salariale ne chutent pas à zéro d'ici là, ils les verront peut-être un jour. Et puis 1,5% d'augmentation de salaire. Les salaires dans le Champagne, c'est peut-être comme en Suisse, ne représentent que 9% du prix de la bouteille. Donc ça laisse de la marge pour les dividendes des actionnaires. Puis on dira peut-être un mot de la gestion des municipalités par le FN, à Villers-Cotterêts en particulier. Les nouveaux élus ont commencé par se remplir les fouilles en augmentant toutes les indemnités des élus de 6%. C'est pas mal comme méthode. Et puis ils se sont surtout fait remarquer ces jours derniers par la décision de ne pas commémorer l'abolition de l'esclavage qui doit se produire bientôt comme tous les ans. Voilà, tu avais peut-être d'autres infos, Robert.
Mais on est toujours dans cette période tragique qui est le souvenir de Tchernobyl, 26 avril 1986. Et donc partout, des manifestations, c'est planétaire. Et toute une série de manifestations avait démarré il y a maintenant 3, 4, 5 semaines, puisque c'était ça le rappel de Fukushima. Et les campagnes sont mondiales. elles sont pas, il n'y a pas de coordination, les organisations sont très autonomes, très locales souvent, mais elles sont partout. Et contrairement au silence des médias en général, au Japon, eh bien, ça continue de bouger énormément pour l'arrêt définitif du nucléaire. Aux États-Unis, ça se réveille également très fortement, et dans la mesure où l'administration Obama, avec les anciens présidents qui ont mené des campagnes sur les climats et sur tout ça, eh bien, ça, bon, on ne peut pas dire qu'aux États-Unis, on empêche le mouvement antinucléaire de se maintenir, voire de se développer. En Europe, eh bien, c'est la Grande-Bretagne qui connaît d'énormes problèmes avec ses vieilles centrales. C'est l'Allemagne qui, bien qu'elle ait fait une reconversion majeure, néanmoins continue d'avoir des réacteurs. Et puis aussi s'inquiète, compte tenu que les nuages nucléaires n'ont pas de frontières, et notamment il s'est retrouvé plusieurs manifestations dans la région, enfin à la frontière des trois pays, autour de Fessenheim, c'est-à-dire Suisse, France, Allemagne, et des rassemblements très importants. C'est même remonté jusqu'à Francfort, et de l'autre côté c'est allé jusqu'à Munich en Bavière, pour demander là aussi l'arrêt définitif du nucléaire. Et puis dans les pays de l'Est, ex-Est, c'est-à-dire qui sont des pays maintenant dans l'Union européenne et qui ont des réacteurs, eh bien les questions sont posées cruellement aussi, parce que on n'a pas envie que Tchernobyl, qui est à 200 km au nord de Kiev, fasse des petits frères et des catastrophes internationales. Donc ça va continuer comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et Fessenheim, c'est intéressant parce que c'est le seul point sur lequel François Hollande, dans son programme électoral, avait mis l'accent, à savoir on fermera Fessenheim. Mais tout le monde le sait bien, en France, on fait du colmatage, parce que partout il y a des petits trucs qui se passent. Bon, pas de gros incidents pour l'instant, mais on est peut-être à la veille d'une catastrophe majeure ou d'un accident majeur. Deuxième centrale, et par exemple les gens de Bordeaux, de la région, demandent la fermeture de réacteur de la centrale de Blaye et de ses réacteurs, qui après Fessenheim fait partie des plus anciennes. Mais fermer les plus anciennes n'est qu'une réponse palliative, pourrait-on dire, à des soins de quelque chose qui normalement doit mourir, c'est-à-dire le nucléaire en Europe.
On n'a rien dit de Saint-Concile, voilà, et de Sainte-Capote.
Le 1er mai, on en parlait tout à l'heure. À Canu, on aura des nouvelles dans les prochains jours.
Tu as suivi les aventures de Sainte-Capote, Saint-Sida, Saint-Pédo, à la télévision, avec M. Valls, qui s'est cru obligé d'aller parader là-bas. C'est une véritable escroquerie d'ailleurs, puisque il est à peine mort, encore parfois dit que le voilà déjà devenu saint, alors que ça fait à peine 2 ans. Et en plus, là où l'escroquerie prend toute sa dimension, c'est qu'il faut 2 miracles pour être déclaré saint. Et Jean-Paul II n'a fait qu'un miracle. C'est un véritable scandale. Où va la religion? Voilà, et ben ce Canu Info se termine. Vous pourrez le réentendre demain matin à 8h. Vous pourrez également le réentendre sur Internet. Vous avez sans doute pas pu l'entendre en streaming, parce qu'on a des petits problèmes avec notre diffusion en direct par Internet, mais on va arriver à en sortir, c'est sûr. On ne sait pas vous dire à quel jour ni à quelle heure. Peut-être ce soir, peut-être dans les jours qui viennent. Voilà, je vous quitte, et puis bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Ne quittez pas l'antenne, bien sûr. Ah, tout de même. même, j'ai oublié une information importante, c'est le 1er mai jeudi. 1er mai, c'est la manif et c'est aussi le repas de quartier de Radio Canut.
Eh bien oui, je ne savais pas si tu le mettais dans le journal ou de toute façon, je crois que vous avez un jingle qui passe toute la journée, non?
Non, pas là-dessus, non, mais il y a des affiches, tout ça, et puis de toute façon, tout le monde peut venir.
Ah tiens, ils ont pas fait un sonore. Tiens,
entre midi, non, on a un jingle pour le son contre la prison, mais c'est un peu plus tard, on en reparlera. La semaine
ah oui, je l'ai entendu, parce qu'ils l'ont aussi ici à Zinzine.
Ouais, c'est le même.
Et il y a une trentaine de radios en France et en Europe qui
rediffusent.
Oh, le gars qui a... Tu l'as écouté?
Oui, oui, bien sûr, on le diffuse.
Oh, le gars, il est... Tu sais qu'il est triste, hein, quand il raconte l'histoire. C'est vrai que la prison, c'est triste.
Mais...